Oublie pas de mettre le jingle pour de Lopo and Vendano, juste pour fourrer les gens.
Non, je pense pas. Non. Allez, 1, 2, 3.
Peu importe c'est où, peu importe où ça joue. MLS, Ligue des champions, Euro, Mondial, on en parle tout le temps. Dit comme ça, ça fait vraiment bien, mais en vérité, on parle surtout de l'impact. Football Club, les pionniers du podcast soccer. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La poutine du soccer.
Bonjour, bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du podcast du Cannes Football Club, édition Couscous Piri Piri, en ce beau dimanche 18 février 2018. Soyez fiers avec vous, je suis joint comme d'habitude par le poulet épicé du soccer montréalais, Nilton George. Comment ça va, Nilton?
Comment ça va, Sofiane?
Très bien, merci. Et comme promis, on a un guest VIP et c'est nul autre que Fredo Lopo. Salut, Fred.
Ça va les gars, ma forme?
Ça va très bien. L'Italo-Québécois du soccer montréalais, c'est le cousin germain de Matteo Mancuso, donc bienvenue. Bienvenue, Lopo,
c'est
à l'émission.
C'est l'avocat de Matteo.
Ouais, Matteo, exactement. Je te dis, Lopo, tu savais quand tu allais te joindre à nous qu'on allait rire de toi, donc c'est ce qu'on fait à tous nos invités. Et je pense que tu es le seul invité.
Pour ton émission.
Je pense que c'est le seul invité avec Sid, je pense. Donc voilà. Donc,
Juste vous dire que mon autre cousin germain est champion de la MLS, donc voilà.
Ah. Il parle évidemment de José Altidor, donc excellent. Donc bienvenue à cette émission qui vient à moins de 24 heures après la victoire de l'Impact face au Tampa Bay Rowdies de la USL en match amical 2-1 dans le Arlang Stadium, le stade de foot baseball préféré de Nilton. Voilà, c'était une belle victoire du bleu blanc noir, belle relativement.
Belle
relative. Tout est beau dans la victoire, Nilton. Et okay. Un but, Saphir Taider et Nacho Piatti. Qui marque pour l'Impact, Evan Bush qui arrête un penalty et les Tampa Bay Rowdies qui marque la 75e sur un but de Jochen Graf. Donc Taider à la 44e, Graf à la 75e et Nacho Piatti à la 77e. Donc on va parler un peu du match, on va lire les questions de nos fans qui nous posent des questions via le hashtag CCPB et CCPP et évidemment via @CanFootClub sur Twitter. Mais on vous remercie beaucoup de nous écouter, puis on apprécie vos questions et vos interactions. Donc, je vais rappeler rapidement l'alignement partant de l'Impact pour qu'on aussi le débat sur le 11 partant. Evan Bush dans les buts, Yuka Raitala, latéral gauche, la paire centrale, Zakaria Diallo et Victor Cabrera, qui a été remplacé par Daniel Kinumbé à la 46e minute, qui a joué côté gauche. Michael Petrasso, latéral droit, remplacé par Duval à la 81e. Dans un 4-3-3 avec Saphir Taider, Samuel Piet et Shami Chong. Et ensuite, devant, Piatti à gauche, Raheem Edwards à droite et Matteo Mancuso à la pointe de l'attaque. Juste pour vous rappeler que Piet a été remplacé par Krulik à la 90e. Chong a été remplacé par Salazar à la 46e. Raheem Edwards a été remplacé par Clément Bahia à la 65e. Et Mancuso par Jackson Lamel à la 46e. Donc les deux attaquants ont chacun eu mi-temps. Donc, je voulais d'abord poser un débat qui pourrait répondre à certaines questions de nos auditeurs, messieurs Lopo et messieurs George. Je voulais passer à travers le chaque poste du 11 partant. Je voulais discuter de 3 à 5 postes que je ne pense pas sont encore comblés, ou du moins le staff n'est pas forcément convaincu sur certains postes. Donc, on va passer par chaque poste, puis on va dire rapidement ben, ces postes sont comblés, le titulaire est garanti, puis dès qu'il y a un doute, on va faire un débat. Donc, gardien de but, Evan Bush. Je suis d'accord que Bush est contesté, mais d'après la hiérarchie établie par Gard et Bats, c'est Bush le titulaire. Donc, on est d'accord qu'il n'y aura pas de débat dessus.
Non, pas du tout, parce que Diop, les peu de minutes qu'il a eu, rien n'a pas convaincu que c'est vraiment une alternative nettement supérieure à Bush. C'est même une coche en dessous avec le peu de minutes qu'on a vu. Les autres, ben, on doit se fier à ce que Gard et son staff voient à l'entraînement, là, parce que c'est difficile pour nous, comme ça, match, on n'a rien vu. Là. Donc, Bush est là jusqu'à temps que c'est la dernière position à combler là, sur le terrain. Une fois que tout va être réglé en avant de lui, ben, on va regarder du côté de Bush.
Donc, je vais pas, Fred, on est d'accord? Bush est contestable, est contestable, mais il ne bougera pas pour le moment pour commencer la saison.
Oui, pour commencer la saison, mais je pense que si la façon qu'on a joué est précurseur de la saison qu'on va avoir. Le gardien de but touche beaucoup plus de ballons que dans le passé. Ouais. Donc, je pense que ça va être un aspect qui va peut-être faire pencher en direction peut-être dans le futur d'un autre gardien de but que Bush. Mais pour l'instant, c'est clairement celui à qui on doit confier le filet.
Parfait. Donc, de façon subjective et malicieuse de ma part, je vais passer aux autres postes que je pense qu'ils sont garantis. Le duo central Diallo-Cabrera, je pense que c'est le duo titulaire en attendant que l'Impact aille chercher un troisième central pour soit qu'on peut signer Cabrera ou Adair Cabrera. On est d'accord qu'il n'y a pas de gros débat au centre. On est d'accord?
Là aussi, c'est par défaut. Là, il est beaucoup trop tard dans le camp d'entraînement pour faire en sorte d'avoir une bataille pour le poste à côté de Diallo. Là, Cabrera, il vient de gagner son poste en étant en forme, en étant en santé.
Ouais.
Exactement.
Et on sait à quoi s'attendre avec Victor. Il y a du très bon, il y a du ouf, pas très bon, mais on est capable de vivre avec en acceptant les conséquences. Tant que le physique tient, c'est hyper important dans son cas, c'est le physique. Malheureusement, c'est Diallo qui aligne les 90 minutes, c'est pas lui. Mais bon, il ne faut pas qu'il y ait de blessures dans cette paire-là.
C'est vrai. Donc, on est d'accord qu'on s'établit sur ça. Comme j'ai dit avant, par rapport à Bush, tout est contestable, mais c'est les postes les moins contestés, entre guillemets, en termes d'effectifs actuels. Côté droit, Michael Petrasso, on l'avait prévu avant la saison, avant la pré-saison, Petrasso est le titulaire en latéral droit pour Rémy Garde pour le moment. Il est flexible parce qu'il peut jouer comme ailier droit, mais pour le moment, l'option, c'est Petrasso à droite. On est d'accord, il n'y a pas trop de débat en termes de... tu commences un match, c'est Petrasso. Maintenant, si tu fais rentrer Duval à droite et tu montes Petrasso d'un cran... C'est un autre dispositif, mais on est d'accord que Petrasso, c'est le numéro 1 latéral droit.
Ouais, honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi dominant, là, parce que physiquement, il est vraiment une coche au-dessus de pas mal des adversaires à date qu'il a affronté. Puis on l'a vu hier, il a fait un centre intéressant. C'est un joueur qui a débordé offensivement des milieux et même les latéraux opposés, ce qu'on est très peu habitué à voir là, du côté du Val. Fait que je pense que si on veut jouer avec un style de jeu un peu plus axé sur la contre-attaque puis qu'on veut que les latéraux soient hauts sur le terrain, Duval a perdu son poste. Là.
Excellent.
Duval était intéressant parce qu'il avait tout le physique de l'emploi. Là, il se donnait beaucoup là, sur son côté, mais techniquement, c'était un peu plus pauvre. Là, on a vu la grande différence avec Petrasso, c'est qu'un centre est capable de la mettre là où il veut. Puis il est bon dribbleur avec le ballon, il sait quoi faire avec. C'est un bon petit plus. Là. À la fin de la saison, ça paraît, ces petits points gagnés à gauche et à droite. Là.
Et je trouve que tactiquement, Petrasso, même s'il fait le 100 mètres 10 fois par match, je pense qu'il est capable de revenir rapidement à sa position. Alors que Duval, j'ai l'impression qu'il mettait tout one shot, puis à la 75e, il n'y avait plus de jus. Encore une fois, je suis en train d'évaluer Petrasso sur deux matchs et demi, parce que Las Vegas, c'était un demi-match, sur une saison entière de Duval avec l'Impact. Donc,
faut faire attention. On lit ça souvent, là, qu'on fait des analyses comme ça en peu de temps, mais des fois, il y a des détails dans les matchs là, qu'on n'a pas besoin de revoir 30 fois. Il ne faut pas attendre au mois... Il ne faut pas attendre au début du mois de septembre pour dire « Ah, c'est foutu, on ne fera pas les playoffs. Ouais. » Dès le début du camp d'entraînement, à petite échelle, on va voir qu'est-ce qui va causer des problèmes à l'équipe. Puis on va voir aussi les qualités premières des joueurs. Puis avec Petrasso, il n'y a plus aucune surprise. On sait que techniquement, il est capable de donner ce que d'autres ne peuvent pas. Donc oui, on donne une opinion après 3,90 minutes, mais ce qu'on donne comme opinion, là, c'est basé sur des faits qui ne devraient pas trop changer. Là.
Excellent. Non. Donc maintenant, oui, vas-y pour finir.
Fred. Juste rapidement, je pense que le jour où un Petrasso va affronter, par exemple, un Lodero, faire des face-à-face par rapport à un joueur comme ça, on va voir. Est-ce que ça va passer pour le futur? Est-ce que ça va être notre latéral jusqu'à temps qu'il passe au prochain niveau et quitte? Ça va être, je pense, ce genre de confrontation-là, excusez-moi, qui va déterminer la valeur exacte de joueur.
Parfait. Donc, et les trois autres postes que je trouve qui sont garantis, c'est le poste de Ignacio Piatti à gauche, Safi Tyler au milieu de terrain et Samuel Piet. Donc, ce qui nous garde...
Piet est en forme, hein, les gars. Ouais, je sais pas si...
Il est en
Piet
forme.
Il apporte peut-être un niveau supérieur au niveau physique de quand il est arrivé l'an dernier. Est vraiment en forme, Pierre.
Non, c'est vrai. Puis on s'attend beaucoup de lui, qui répète au moins le minimum ce qu'il a donné l'an dernier. Puis encore plus, jeune, marge de progression, système de jeu différent, façon lyonnaise, etc. Donc voir comment il va évoluer dans son jeu en tant que personne et en tant que joueur. Maintenant, il nous, en fait, j'ai, avec ça, le reste des postes que je n'ai pas mentionnés ne sont pas du tout garantis à mon avis, ou j'ai des points d'interrogation. Mmh. Donc, il y en a quatre. Latéral gauche, le côté droit, mais dans le 4-3-3, dans le côté droit offensif.
Ouais, on joue surtout principalement en 4-1-4-1.
Ouais, disons.
Mais bon, on s'entend sur le côté droit, là, le milieu ou ailier droit.
Si on visualise un 4-3-3 pour faciliter, faciliter la visualisation, à droite, c'est contestable. En point de l'attaque, c'est contestable. Le latéral gauche, contestable pour le moment, par manque d'être impressionné. Et enfin, le troisième milieu de terrain dans l'axe qui manque, pour moi, c'est quatre postes qui j'ai un doute dessus. Et on va commencer avec le poste de latéral gauche. Yuka Raitala ou Lovic. Fred?
Raitala, pour moi, a peut-être l'avantage parce que, bon, a beaucoup plus de métier. Je pense que c'est un joueur plus intelligent, puis à mon avis, défensivement, peut-être plus solide. Mais pour, comme tu l'as dit, il n'a pas impressionné jusqu'à maintenant. Puis Lovic n'a pas joué non plus beaucoup de minutes. C'est un gars qui, normalement, faisait la différence parce qu'il était en forme physiquement. De ce que j'ai vu pour l'instant, ça semble pas être nécessairement le cas. Donc, je pense que, comme tu dis, c'est un poste qui va vraiment avoir une compétition entre les deux. Puis je pense que hier, l'audition de Kikumbe, là, on l'a vu, le jeune homme, malheureusement, était très, très nerveux. Je pense que son talent est indéniable, mais hier, ça a pas très bien été pour lui.
Même si j'ai dit que je vais pas nécessairement avaler un joueur sur deux matchs et demi en pré-saison, je m'attendais vraiment à voir Raitala centrer beaucoup plus et avoir des meilleurs centres, meilleure qualité dans ses centres dans la surface de réparation. J'ai peut-être raté quelques-uns, donc c'est pour ça qu'il m'a fait un peu douter. Est-ce que le 8 est vraiment derrière Raitala? Je pense que oui, mais j'ai un doute par rapport à l'efficacité du côté gauche, à moins qu'on dise ben, Piatti fait tout côté gauche, puis tu te débrouilles.
C'est fou, hein, notre défenseur de l'année n'est même pas sûr d'être sur le 11 partout.
Et on recommence. Oh là là.
De toute façon, il ne reste pas beaucoup de défenseurs sur le terrain de l'année passée, point.
Bande de haters.
C'est pas facile à jouer comme latéral gauche derrière Piatti. Hein.
Non.
Et t'es pas trop sûr de ce que Piatti va faire. Là. Et oui, il coupe souvent au centre, mais il peut aussi s'essayer sur les lignes. Tu sais, c'est un peu compliqué. Comme tu as dit, Fred, Raitala, une chance qu'il a l'expérience et le métier là, dans son sac là, pour se vendre parce que on voit pas de grosses différences avec le Vert, puis c'est pas normal. Mais, à terme, c'est lui qui va débuter la saison à ce poste-là. Il y a 30 matchs à peu près comme à latéral gauche l'année passée.
Oui.
Garde va s'appuyer là-dessus. Puis, de temps en temps, Lovic, quand il va avoir ses minutes en cours de saison, c'est à lui à prouver que c'est une option.
Mais t'as amené un bon point, c'est quand Piatti est sur le terrain. Hier, on l'a vu, Raitala fait la course vers le coup de pied de coin. Là, puis, Piatti va jamais faire la passe en profondeur vers là. Ça, il va couper au centre, il va refaire la passe vers Taider. On l'a vu l'année passée, il faisait la même chose avec Dimali. Fait que c'est ça qui est difficile à jouer avec du même côté. Piatti, c'est que si tu fais ta course en profondeur, c'est sûr que tu perds d'énergie pour rien. Puis en même temps, si tu restes trop bas sur le terrain, ben c'est pas t'aides pas nécessairement ton équipe. Fait que c'est ça qui est dur à gérer, je trouve.
Il faut vraiment un profil beaucoup plus défensif. C'est pour ça qu'on a toujours beaucoup aimé Donny Toya à gauche parce que lui, il faisait sale beaucoup pour deux pendant que Piatti revenait en marchant. Mais là, cette année, c'est moins le cas. Là la structure là, de garde est très, très, très rigide. Piatti travaille autant en défensive qu'à l'attaque. Mais une fois qu'on a le ballon, une fois qu'on monte, le rôle du défenseur gauche, il n'est pas encore clair. Là.
C'est vrai, mais disons que parmi les quatre postes que j'ai identifiés comme étant suspect, le latéral gauche est le moins suspect.
C'est le moins suspect, mais
j'avais juste un petit doute. On a eu ce débat, c'est bon, on clôt le débat, c'est fait, on est assez d'accord. Maintenant, le troisième fameux milieu central, axial, et puis je vais lire ce que Jérémy Filosa a dit, a rapporté, parce que lui, il est en Floride
excellent,
aussi.
C'est excellent, ce quote-là.
Non, c'est excellent. Il dit, ben, en parlant de la position du troisième milieu de terrain, où c'est Chami Tchoum qui a clairement le poste pour le moment, il dit, Jérémy Tweed garde à répéter qu'il joue avec les gars qu'il a présentement. Il a parlé d'options limitées. C'est clair qu'il espère fortement des ajouts et vite, je suis en accord avec lui. Donc, comme tu avais dit, Nilton, plusieurs fois, il y a des joueurs qui sont là par défaut, par manque de choix. Mais disons que Chaume, je trouve qu'il a l'air bien. Je trouve que c'est un garçon intelligent. Il est beau à voir. Quand il joue, il a une belle prestance. Il manie le ballon. C'est ça, on dirait un joueur des années 90, là, il est capable d'accélérer, de ralentir le jeu.
Il a des shorts serrés.
Oui, il a ça aussi, puis, et surtout qu'il est très brouillon, il fait des erreurs de passe, etc. Il était beaucoup mieux contre Tampa Bay que contre Chicago. Mm-hmm. Il était beaucoup plus nerveux, puis Chicago était un niveau plus haut que celui de Tampa Bay, donc peut-être ceci veut dire cela.
Mais il faisait le pressing aussi contre Dax McCarthy, souvent, là, c'est pas un client facile. Hein.
Non, exactement, et c'est pour dire, le troisième milieu de terrain, on attend Vargas qui n'a pas encore joué en Floride parce qu'il est blessé. On aurait espéré que Vargas aurait été un sort de milieu axial, offensif, qui serait couvert par Tider et Piet. Donc voilà, ça c'est un poste important qui est qu'il faut qu'il soit comblé au plus vite. Parce qu'en ce moment, les options, c'est Donadel ou le jeune Clément Baya, qui a été très bon, je trouve, pour un gars de 18 ans.
En théorie, il devrait aussi avoir Belen Goyette, mais...
Ouais, les blessés ont souvent tort. Malheureusement, les blessés ont souvent tort.
Moi, je te trouve un peu trop jovialiste avec Chaumé, parce que... Oui, c'est un bon bosseur, il court, il a l'air d'un joueur de foot, là, c'est le minimum. Mais une fois qu'il y a le ballon, il ne se passe pas grand-chose. Là, au niveau créativité, c'est proche de zéro. Piet a apporté plus de ballons dangereux que Chaumé. Et on s'entend qu'on a toujours dit que Piet, c'est quelqu'un qui jouait simple, qui jouait court, que ce n'était pas sa force. Sa force, c'était de gagner le ballon et de trouver un partenaire rapidement. Piet, dans ce match-là, a trouvé des ouvertures, des passes clés. Mais Chaumé, non. À chaque fois qu'il jouait propre, c'était des passes... soit sur les côtés, soit en arrière. Les ballons vers l'avant, c'était assez faible.
Non, mais je suis d'accord avec toi, mais quand Jimmy se poste dans le troisième milieu de terrain comme un poste à combler, c'est pas pour dire que Chaumé... Si Chaumé était excellent, j'aurais pas mentionné ce poste. Je suis d'accord avec ton point sur Chaumé, mais j'ai dit que Chaumé est intéressant. Lui, Belen Goyette aurait été bon devant jouer, mais malheureusement, les blessés ont tort. Et c'est par rapport... Je voulais un peu ramener ce débat entre nous. Pour dire, est-ce que l'impact. L'impact est obligé de mettre un joueur là par défaut. Donc, on maximise ou pas Tider, on maximise ou pas Piet.
C'est déjà commencé pour Tider. Oui. Tider est en train de vivre ce que Blérim a vécu. C'est qu'il joue dans un profil beaucoup plus offensif qu'il est habitué. On le voit, là, il se projette beaucoup plus à l'avant, il est beaucoup plus attaquant, il sort ce qu'il est fou. Oui, mais c'est pas son style habituellement.
Louis a quasiment pas joué l'année passée, puis blessure, tu perds ton rythme. Hein. Il a pratiquement perdu un an, puis l'autre année d'avant, il a joué quoi, 14 minutes? Fait que tu sais, on s'entend que c'est pratiquement deux ans de foot perdu. Même chose pour Chamet Chum, on l'oublie, mais l'année passée, il a joué le dernier match de la saison. À part ça, ça a été blessé toute la saison à partir du premier match jusqu'à l'entraînement. C'est un an perdu aussi au niveau de la créativité, de la confiance en soi. Fait que c'est sûr que quand vous parlez de faire des jeux offensifs, c'est très difficile pour un gars comme ça qui n'a pas encore une confiance. Il n'y a pas de métier. Là. Il a joué à Edmonton, that's it. C'est sûr qu'en ce moment, on se retrouve avec des gars qui vont pas faire le dribble ou la passe un peu plus risquée pour faire un jeu offensivement. Comme vous l'avez mentionné, Vargas, c'est peut-être la personne qui va nous dépanner. Puis on l'a vu en deuxième demi, Garde a changé son schéma tactique pour justement a mis Piatti peut-être dans le rôle que Vargas aurait dans un effectif où tout le monde est disponible. Fait que tu sais, le poste qui est peut-être à combler, il est peut-être déjà, sauf que il faut se donner aussi des options dans un autre schéma tactique, dans un schéma tactique un peu plus défensif. Puis je pense que c'est là qu'un gars comme Chamet Chom, qui est physiquement, on voit qu'il est quand même bien avancé, quand même un gros bonhomme, peut être intéressant. T'sais.
Et je veux juste mentionner une question de notre fan le plus grand et le meilleur, Dr. Foot, @docanscomayou, qui demande, après trois matchs préparatoires, les pièces du casse-tête semblent se mettre en place pour IMFC. Moi, je dis que non. Il fait une affirmation, je ne suis pas d'accord, totalement. Si la saison commençait aujourd'hui, quelle serait votre 11 de départ? On est en train d'avoir le débat en ce moment, Dr. Foot, donc merci pour la question. Et c'est justement, pour rejoindre la conversation, c'est oui, il y a clairement des points d'interrogation, mais est-ce que Garde a assez de joueurs dans son dispositif pour pouvoir se permettre de changer rapidement à un 4-3-3, 4-2-3-1, 4-1-4-1, qui pourrait être similaire avec le profil de joueur qu'il a sous sa main, sous sa mise. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire en concret? Concrètement, on voit que l'Impact va jouer le contre. Ils ont joué le contre contre Chicago, ils l'ont fait contre Tampa Bay.
Mais moins. Oui. Comme Tampa Bay, là, après 10 minutes, là, le ballon était pas mal dans les pieds de l'équipe de l'Impact de Montréal, puis le bloc était pratiquement dans l'autre moitié. Ça ne sera pas pareil contre les autres équipes de la MLS. Là. Oui, ça va être beaucoup plus le contre, surtout en début de saison. Mais on a vu que s'il fallait, Montréal était capable, cette saison, de créer du jeu, de poser et d'essayer de trouver des brèches dans l'équipe adverse autrement que le contre-attaque. Ça ne sera pas juste la contre-attaque. C'est clair et certain. Mais pour ça, les postes qui sont à combler ou qui sont encore un petit peu en doute, il faut qu'on trouve des options rapidement. Parce qu'un gars comme Chaumet, disons, au milieu, s'il n'est pas capable de trouver des trous et de créer quelque chose de dangereux, rapidement, on est capable de bloquer du côté gauche parce qu'on sait que le ballon, éventuellement, il va finir dans les pieds de Tyder et il va trouver Piatti. C'est à peu près tout ce qui se crée offensivement d'intéressant.
Dans le jeu, j'avais l'impression que l'Impact voulait contre-attaquer, mais bizarrement, les deux buts qu'ils ont marqués, c'est des buts de construction, entre guillemets. Il y avait le but de Piatti, c'est Pietrasso qui fait une percée. Vraiment, il fait un truc miraculeux, il dépasse 5-6 joueurs pour ensuite donner une passe extrémiste à Tyder.
C'est pas des buts de contre-attaque comme la dernière fois.
Exactement. Puis le premier but, c'était vraiment Tampa Bay était dans son camp, mais c'est mal placé. Edwards a été intelligent de se cacher côté droit. Tyder a été magique. Pietrasso est méga magique, puis but de Tyder.
Je vais revenir sur un truc que j'avais parlé quelques fois l'année passée. Don Adel, je ne sais pas ce qui s'est passé pour le match de samedi. Il n'a pas joué une minute, doit être blessé. Mais Don Adel à côté de Tyder, ça peut être une solution à court terme.
Sérieusement, oui. Parce que
à court terme, ça peut être une solution.
Si Tyder joue dans un rôle plus offensif, puis on n'a pas le faux neuf, là, Don Adel devient l'option parce que c'est le gars qui peut rejoindre balle au pied, un Edwards et un Piatti qui, eux, à eux seuls, peuvent faire la différence.
Et qui devient un danger avec un tir de loin. Si on laisse aller un peu trop Don Adel en se disant qu'il va faire des passes, il peut devenir dangereux avec des tirs de loin. On sait qu'il est capable. Là. Donc, j'espère que Garde regarde dans cette direction-là. Et qu'éventuellement, ça peut devenir une option qu'un Donadel jumelé à Tyder, qui n'a pas besoin, avec Piet derrière lui qui fait le sale boulot, il peut durer beaucoup plus que son fameux 60 minutes en milieu défensif.
Moi, honnêtement, jusqu'à temps qu'on ait des joueurs qui vont peut-être être supérieurs à ce qu'on a actuellement, moi, je salive de voir ces trolls ensemble, personnellement.
Je pense aussi, mais j'avoue qu'on découvre le trio Piet, Tyder, Piatti qui est assez intéressant. Parce qu'ils sont assez complémentaires, ils ne se marchent pas sur les pieds, même si Piet a une envie de jouer un peu plus vers l'avant, on l'a vu. On a vu des moments où on voyait Piet
et Tyder. Ou consigne
Peut-être les deux. Bonne question, Lildon. J'ai l'impression que c'est une volonté, mais peut-être le style lyonnais, c'est que tout le monde joue. Donc, je ne veux pas faire des généralisations non nécessaires, mais les milieux de terrain, tout le monde doit savoir jouer. Ce n'est plus les années 80 où tu as des gars qui bottent dans les chevilles des autres. Donc oui, Piet, peut-être à son âge, il est capable de donner un peu plus dans son jeu. Oui.
Moi, ce que j'ai remarqué dans ce match-là, ça a comme ressorti à l'écran par rapport à l'année dernière, c'est le jeu au milieu du terrain. Combien de fois qu'on est habitué de voir des ballons qui sont passés entre les deux défenseurs centraux, puis après, c'est soit on balance loin devant ou soit on essaye quelque chose sur les côtés.
C'est tellement beau, là.
Là, on a vu Diallo, on a vu Cabrera, on a vu aussi Piet. Jouer l'option centre. Et ça devient dangereux, là, parce que là, on traverse complètement le terrain, on casse une ligne du milieu de terrain, et là, tout de suite, on crée un danger. Et si c'est une consigne de temps en temps varier le jeu, pas seulement sur les côtés, mais y aller aussi passer par le milieu, là, ça devient intéressant. Là, ça apporte une créativité différente que uniquement les fameuses contre-attaques ou les longs ballons et on espère gagner un duel dans les airs.
Mais il y a quand même l'avantage que les joueurs sont en train de veulent se prouver pour le nouveau staff. Donc il y a une certaine énergie positive et nerveuse pour dire je vais avoir ma place. Et numéro 2, juste pour finir. Et numéro 2, positif pour dire on met dans un nouveau système, on me donne de nouvelles consignes. Donc on le voit par exemple l'énergie du pressing à travers tous les matchs. Le pressing de l'Impact, il est appliqué à différents niveaux, différents moments du match. Il y a le pressing haut, bas et moyen qui est varié à travers les différents matchs. Et puis on voit que c'est du pressing. Par exemple, s'il décide de faire un pressing bas, il le fait exprès dans plusieurs cas. Ce n'est pas parce que l'équipe a le ballon, en tout cas, il fait exprès de reculer son bloc d'un cran pour essayer de tester le pressing bas. Et puis on voit le pressing haut avec Mancozu, Taider, Piatti qui font la rotation pour le pressing. Donc il y a une certaine façon de jouer. Et je trouve que le fait que quand on passe plus par l'axe, le fait que le joueur comme Piatti, même Edwards, son préféré Nilton, ou Mancozu, Jackson Hamel, se rendent disponibles au porteur du ballon rapidement, et que les latéraux, notamment Petrasso, est capable de créer des décalages, obliger l'adversaire de venir de son côté pour créer l'espace de l'autre côté, tout ça, c'est quelque chose qu'on a vu rapidement. Alors que l'an dernier, on avait Bernadello, on avait Arregui, on avait Bernier, on avait Donadel, puis à droite, c'était Oduro. Donc, on voyait une certaine limitation à travers des profils de joueurs, un milieu de terrain vieux. Puis là, on voit la différence avec Taider, beaucoup plus dynamique, même si Djemali n'était pas là en pré-saison. Piet, c'est une nouvelle saison pour lui. On va oublier les 6 derniers mois. Ça, c'est son jour 1 avec l'Impact maintenant, parce que l'Impact a changé depuis qu'il s'est joint au club l'an dernier. Donc, il y a tous ces facteurs ensemble, je trouve, qui donnent une certaine énergie positive au sein du groupe, au sein de la pré-saison, parce que tout le monde veut se prouver. Tout le monde veut se préparer et puis on va voir ce que ça va donner. Lopo, je t'ai interrompu, excuse-moi.
Non, mais tu as dit ce que je voulais dire. Mais maintenant qu'on a plus ou moins réglé là, en milieu de terrain, évidemment, c'est à voir. Puis je pense qu'on en a parlé, une acquisition est possible. Mm-hmm. On l'a vu là, dans les commentaires de l'entraîneur et même Braz. Puis, tu sais, j'aimerais continuer dans ta direction en parlant d'Edwards. Si vous avez parlé, le gars est pas mal. OK, le gars est pas mal, mais je trouve pas qu'il y a comme un genre de Ben Morgan sur ce gars-là.
Ah, c'est incroyable. Fred, enfin quelqu'un. Mon ami Fred, c'est incroyable. Edwards, là, c'est la nouvelle fille qui vient d'arriver dans la classe.
Tu sais, le gars, là, je m'excuse, mais ce gars-là va amasser son lot de cartons. Oh, ce gars-là va nous faire payer des rouges. Je m'en plus, je pense qu'il y a eu deux ou trois rouges l'année passée en 14 matchs, un truc comme ça. Tu sais, c'est... OK, oui, pour une fois, on a un gars qui est rapide avec le ballon à droite, puis...
Attends,
mais c'est ça, laisse-moi finir ma phrase. Et qui est capable, capable de déjouer un joueur, là. Ça, c'est déjà une progression. Mais il est là parce qu'on n'a rien d'autre. Là. Parce que Salazar, ça marche pas. Puis Oduro, on l'a vu. Oduro n'est pas dans les plans. Fait que, s'il vous plaît, gardez-vous un peu de réserve. Là. On a vu, il y a des limitations, Edwards. Ça, c'est pas toujours très beau.
Fred, désolé de te contredire. Raheem Edwards a seulement eu un carton jaune en 2 ans. Désolé. Peut-être en USL, mais pas en MLS. Il y a juste un carton jaune en MLS.
T'es sûr? Parce que le gars de... Ah, ça doit être le commentateur de Chicago, qui faisait le match de Chicago, qui s'était trompé, mais il disait qu'il avait eu, je pense, 2 ou 3 rouges en 14 matchs l'an dernier, mais en même temps. Il pensait qu'Edouard jouait aussi pour le FC Edmonton, fait que je sais pas aussi.
Il y a ça aussi. Donc, ouais. Donc, ouais, mais c'est pas pour contredire ton raisonnement sur Raheem de Jim Edwards est valide. Mais c'est plus Nilton, je trouve que Edwards, malgré le côté son show, puis vous allez voir rapidement le son show de Taider durant la saison, je vous garantis, il s'est amélioré par rapport au match précédent. C'est beaucoup mieux. On voit clairement le joueur gaucher côté droit qui, lorsqu'il s'applique, il peut bien faire. Et je trouve que c'est positif pour le côté droit, qui reste encore ouvert à tout le monde, mais je pense que Edwards a une coche au-dessus par rapport à Salazar. Pas trop. Et le reste, il n'y a personne d'autre côté droit qui peut jouer.
Hey, Salazar est pourri, guys, là.
Il est limité maintenant. De toute façon, on s'en fout qu'il soit bon ou pas bon, Salazar. C'est pas important. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Edwards, les gens l'aiment beaucoup. Les gens font juste aimer son énergie sur le terrain et oublient un peu. Il y a beaucoup de déchets dans son jeu. Là.
Oui.
Je veux dire, à droite, il n'est pas super bon dribbleur à droite. Avec son pied gauche, ça limite beaucoup. Il court, hein? Il court, il se projette vers l'avant. On en avait un avant aussi qui courait. C'est juste que lui, une fois qu'il reçoit le ballon, ben le ballon va un peu moins loin. Il reste un peu plus proche.
Il est beaucoup plus hargneux aussi défensivement qu'Oduro.
Oduro aussi, il se donnait beaucoup défensivement.
Non.
Arrête, Fred. Sinon, je te kick out. Sinon, je te bloque, OK? Arrête. C'est Oduro, on n'était pas défensivement mieux l'an dernier que les autres années. C'est que, bon, voilà quoi. Sinon, Oduro défensivement était beaucoup plus appliqué en 2016. en 2017 et en 2016 que
tout le monde a été nul l'année passée. Moi, je trouve que le coup près sur Oduro, je le comprends pas trop. Pourquoi qu'il y a un traitement si rough que ça? Je le sais pas. J'aurais comme le goût de lui montrer à Rémi Garde d'autres séquences de jeu que Braz lui a montré. Je veux dire, est-ce qu'il mérite vraiment ce traitement-là tant que ça?
Ben justement, on a une question sur Twitter là, de Benoît Tourongeau. Est-ce qu'Oduro a finalement joué? Non, Benoît. Est-il possible de régler cette situation de façon élégante? Non, Benoît, non plus. Il n'y a rien d'élégant quand on ne veut pas de toi. En espérant qu'il se retrouve un club où il pourra jouer des minutes puis contribuer à un autre club MLS, mais sinon, il n'y a pas trop de... Il n'y a pas d'élégance quand tu veux conduire.
Mais juste, finir le point de zéro, j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé ultimement, parce qu'on ne traite pas quelqu'un comme ça juste parce qu'on ne peut pas le faire jouer. Puis, Camara, son bon ami, si les deux agissent de la même façon, parce que Camara, c'est un joueur quand même contesté, s'il a demandé, écoute, faites-moi jouer, ou peut-être qu'on avait eu un échange pour lui, peut-être qu'on l'avait échangé, puis que lui, finalement, il a dit de se faire. T'sais, on ne connaît pas nécessairement sa situation.
Ça ressort de l'an dernier, où Oduro est passé des titulaires dans une victoire à ne pas jouer pendant 15 matchs quasiment. J'exagère sur les 15 matchs. Il y a quelque chose qui est arrivé entre Oduro et l'Impact, pas juste Mauro Biello.
C'est pas la première fois, l'année d'avant aussi, il y avait eu un traitement assez sévère sur lui. Là, puis il est revenu parce qu'il a marqué quelques buts, puis le staff n'a pas eu le choix de le faire jouer.
Exactement. Non, c'est vrai, mais il se peut qu'Oduro ne soit pas un enfant de cœur aussi. On ne connaît pas toute l'histoire et je ne veux pas sortir des rumeurs qui n'existent pas parce que je n'ai pas du tout les contacts. Je suis seulement un simple gérant d'Estrade tous les dimanches, mais...
Tu l'as placé, c'est bien.
Je ne sais pas de quoi tu parles. Je me garde de dire ce genre de choses. Mais pour un peu boucler sur le côté droit, c'est que... Edward surtout. Edward, je pense qu'il y a... J'ai deux points sur Edward pour finir. C'est qu'il a une certaine sympathie envers Edward parce qu'on veut que l'échange Laurent Simon soit un bon échange pour l'Impact. Il y a ce côté psychologique, inconscient. Oui. Oh, s'il te plaît, il faut que ça marche, sinon c'est bon, on va
regretter. Il y a plusieurs questions comme ça, hein, justement. Tu sais, il y a Danny Bouchard qui nous demande si Diallo Cabrera, c'est mieux que Simon Cabrera. Il y a d'autres questions aussi là, qui courent là-dessus. Là. Est-ce que finalement, l'échange de Simon... Ben, non, c'est pas...
On a Jean-Nicolas Caron qui pose la même question par rapport à Diallo et Cabrera et Simon.
Ultimement, Simon aurait pu jouer avec Diallo. Simon de l'année passée, est-ce qu'il y avait les mêmes consignes? On sait que Simon est capable de jouer comme Diallo.
Oui.
Simon est capable de dribbler un joueur, puis de jouer au sol, puis de monter un ballon. Mm-hmm. Il l'a fait en 2016. Pourquoi qu'il ne le faisait plus en 2017? C'est difficile à comprendre.
Okay.
Donc, si on peut, l'échange soit bon.
Oui. Si on donne un pourcentage, un sondage rapide, mais juste un pourcentage, s'il vous plaît, et pas de débat dessus, sur... l'échange de Simon, le pourcentage que c'était un move financier, le pourcentage que c'était un move sportif. Quel est le pourcentage que vous donnez à chacun? 100%, donc vous devez compléter le 100% entre chaque pourcentage. Le financier compense 10, 20, 30, 40, 80% de la transaction.
Est-ce que tu prends aussi en considération l'aspect, on va dire, synergie entre le joueur et l'équipe?
Ça inclut dans les deux options, ça l'inclut aussi.
Parce que financièrement, moi, j'irais à mettre jusqu'à 60-70% parce que laisser aller puis pas le donner le salaire qui est réclamé, ça veut dire que ultimement, t'as 3 à 4 joueurs pour le même prix. Hein,
mais j'ai dit rapidement, j'ai juste des chiffres. Je comprends ton
raisonnement,
mais
il faut 70-30. Y aller.
Moi aussi.
Moi, je pense que c'est encore un peu plus parce que je suis d'accord avec Fred. Il y a toute la synergie, la mauvaise ambiance
de communication,
semble-t-il, entre Simon et le staff. L'échange était à pratiquement à 90-95% objectif de se débarrasser de Simon.
Oui, se débarrasser, je suis d'accord. Et le 70%
pour son salaire et pour l'ambiance qu'il crée.
Je suis d'accord. Le 70% était rapidement devenu à 90% parce que il y avait des choses à l'interne qui n'étaient pas nécessairement connues. Puis je pense qu'avec ce que dit Simon, Simon a tout simplement dit quand il était à LA, je pense que c'était Nicolas Martineau qui l'a fait l'entrevue avec lui, qui lui a dit je ne vais pas paraphraser, je vais juste dire j'avais l'impression que Simon s'est fait lâcher comme du lest, quoi. C'est comme une.
Parce que là, on essaye, pour bien paraître, on essaye d'inclure Diallo dans ce trade-là. c'est un faux débat. On avait déjà besoin de défenseur central, déjà avec Simon. À preuve, on en cherche encore un autre. L'échange, c'est deux gars non protégés, un défenseur gauche qui se bat contre Lovitz et on ne sait toujours pas si c'est vraiment une meilleure alternative. Et un ailier latéral gauche qu'on va faire débuter comme milieu droit. Et il est tout seul comme option, puis on n'est pas totalement convaincu.
Donc, à terme, là, Fred, je ferme le débat, Fred. Terrible.
Fred, non, mais Fred, juste, faut juste terminer là-dessus, mais ultimement, c'est ciment versus profondeur. Le débat est là, that's it.
OK, c'est bien résumé. Bon, c'est un débat de 3 secondes qui a duré 4 minutes, parce que sinon, ce ne serait pas le CCPP, avec une touche de VIP de l'OPO. Donc, désolé pour ma mauvaise gestion de ces énergumènes voyous.
Il n'y a pas d'annonce à passer, mais
ouais. Ouais, c'est voyou, là, c'est voyou du podcast. Mais, mais pour finir sur Edwards, je disais qu'Edwards, il y avait un côté psychologique qu'on veut que ça réussisse pour que l'échange ciment soit... Exactement, mais pas du tout, au fait. Pour que l'échange ciment soit vu comme un échange gagnant. Mais il y a aussi... Edward, je veux qu'il réussisse parce que lorsqu'il décide de lâcher le ballon et de jouer la passe avant d'essayer de dribbler, et comme a dit Nilton, son taux de dribble est assez catastrophique en cette pré-saison, dans le style de garde qu'il veut faire, la plupart des entraîneurs, c'est que dès qu'Edward se combine bien avec Piatti, Mancuso et surtout Petrasso côté droit, c'est là où on va voir sa valeur va être revalorisée, entre guillemets, ou pas, par rapport à son évolution dans son jeu. S'il fait les mêmes conneries, puis il s'appelle pas Piatti, puis il marque pas 20 buts, et rapidement, il va avoir le banc. Parce que avec Salazar qui lui souffle, il souffle derrière, qui est juste derrière lui, qui n'est pas nécessairement le plus grand et les droits du monde, ça ne change pas qu'il y a une compétition interne et Bugard n'a pas le moyen d'aller payer un transfert de 2 millions pour un ailier de Ligue 2. Donc, la pression est sur ces joueurs-là de vraiment s'appliquer et de vraiment d'y aller all-in. Parce que Gard, il a l'embarras du choix en termes de médiocrité, entre guillemets. Pour vraiment faire quelque chose. Et sa médiocrité-là peut devenir rapidement de l'excellence si ces joueurs s'appliquent et si l'équipe trouve un collectif intéressant.
Donc le débat. Si on se retrouve avec un autre Edwards derrière Edwards, ça peut être intéressant. Tu vois celui qui est en forme. Tu sais, des gars comme ça, on en a eu à l'appel. On a eu Deli Duca, on a eu Lamar Legal. C'est le même profil. C'est des gars intéressants. Il faut, c'est un minimum pour jouer en MLS. Il y a un lot de défauts. C'est pas un wow, c'est juste OK.
Mais on finit sur Edwards. Ultimement, c'est Chouanière qui aurait dû gagner ce poste-là.
J'ai même pas vu Chouanière parce qu'il a pas joué. Donc, j'ai même pas
pensé à lui. Non, mais c'était lui qu'il fallait qu'il gagne ce poste-là.
Oui, c'est pas trop tard.
Ultimement.
Et je suis 100% d'accord. Moi, les jeunes de l'Impact, les bons gars locaux, je les aime bien. Mais encore une fois, si t'es même pas dans le... T'as même pas joué des minutes... dans des matchs amicaux.
Mais il n'a pas joué à...
Il a joué contre Chicago, donc c'était bien.
Ah, OK.
C'était bien. Mais honnêtement, si tu n'es pas considéré... C'était le troisième gars derrière Edwards et Salazar. Je dis, merde, il va encore se retrouver sur le banc puis il va jouer zéro match. Le temps nous le dira si on a tort ou raison. Et le dernier débat. Et c'était... quand ça rejoint la question de Dan Turcotte à Dan Turco 07. Je pense qu'il y avait un autre tweet que je vais lire. J'avais tweeté sur Mancuso et Jackson Hamel où je disais que Mancuso, il faudrait que Mancuso soit celui qui prouve au staff qu'il est meilleur que Jackson Hamel et non pas l'inverse, à mon avis, dans la hiérarchie du club. Et puis Dan Turcotte disait actuellement aucun des deux attaquants ne pèse réellement sur le jeu, c'est un problème. Laissons toutefois la chance à Jackson Hamel qui n'était pas visiblement à 100% hier. Et je cherchais une autre question de.
Il y a Matteo Marquez aussi qui nous demande si. S'il doit se dépêcher de se trouver dès maintenant un numéro 9 où il faut attendre en juin pour se trouver.
Il avait aussi Mr. Foot de Foot. Comment faire avec deux attaquants? Il n'y a pas un seul qui est vraiment rassurant. Donc voilà, on a eu ce débat sur les attaquants. Nilton la dernière fois, même les deux dernières fois. Puis on disait que Garde ne cherche pas un profil différent comme un Kouzou et le Chalamel. Il cherche un profil qui est meilleur.
Efficace.
Donc maintenant... Lopo, tu es nouveau dans cette émission 2018.
Dans les dis-nous des nouvelles choses.
Voilà, aide-nous parce que là, personnellement, moi, le quatrième poste qui est flagrant en termes de compétitivité, même si j'aime beaucoup Jackson Hamel, c'est le poste d'attaquant de pointe.
Ouais, j'ai un point que j'amène depuis un moment, puis je le martèle constamment parce que je pense que c'est vraiment ça la solution. Les deux gars sont des joueurs intéressants. Pour chacun ont leurs forces, chacun leurs faiblesses. Mais je pense qu'ultimement, c'est deux styles de jeu qui ne sont pas compatibles avec Piatti. Ça, moi, je pense que ça commence là. Cette année, on va peut-être avoir un ailier droit qui va être capable de centrer. Ça va peut-être aider les deux joueurs. Mm-hmm. Puis on l'a vu sur le centre de Petrasso. Mancuso est toujours au deuxième poteau. Hein?
Mancuso toujours... était hyper en retard. Il a
non,
pas
je
du
sais,
tout fait la
ça.
Course.
Parce que dans le passé, il les a fait. Ça ne marche pas. Et même Jackson a fait ce genre de course-là. Il n'y avait jamais des centres. Puis Salazar, c'était pas un gars qui était capable de faire des bons centres. Oduro, on le sait non plus. Et Piatti centre une fois par 20 matchs. Donc, déjà là, ce genre de course-là, ça ne marche pas. Et lâcher le ballon dans le dos de la défense pour faire la course, on l'a vu, Mancuso n'est pas assez rapide. Puis Jackson est limité physiquement. Donc, je me dis, pour moi, dans la façon que l'Impact joue au ballon actuellement et dans le passé, ça prend un gars qui est plus mobile qu'un attaquant pivot. Ça prend un gars qui peut descendre et monter le ballon avec les joueurs. Un peu comme
celui
quand Jackson...
Celui que tu décris, là, ouais. C'est Divayo.
Je pense aussi, puis on l'a vu, Jackson Hamel a connu énormément de succès quand il venait peut-être aux trois quarts du terrain, se mettait un peu en pivot, remettait le ballon à l'ailier, puis après ça, allait se placer là, pas trop loin du premier poteau pour soi. On a vu, il a pris des rebounds. C'est ce genre de joueur-là qu'on a besoin. Puis actuellement, les deux profils dans la façon qu'on joue, malheureusement, je pense pas que... On les met dans des dispositions, peu importe le talent des deux joueurs, pour marquer 10 à 15 buts dans cette MLS. Peu importe, on pourrait avoir Ola Camara, on pourrait avoir un Fernando Adi, deux profils qui sont plus ou moins similaires à ce qu'on a actuellement. Ça ne marcherait pas avec un Piatti.
Ça ne marcherait pas aussi bien qu'on voudrait, mais ça marcherait beaucoup mieux que Mancuso. Beaucoup mieux.
Parce que c'est deux joueurs qui sont supérieurs dans cette ligue, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas des profils qui vont nous garantir, dans le style de jeu actuellement de l'Impact, de 10 à 15 buts par année.
Mais je pense que Piatti, il est pas con, là. C'est un joueur intelligent. Il est pas aussi totalement égoïste.
Ça fonctionne.
Non, mais il est égoïste. Mais il est égoïste parce que c'est un buteur dans l'âme. Mais je veux dire, il n'est pas totalement égoïste pour dire que moi, je ne veux pas changer mon style ou je ne veux pas nécessairement m'adapter pour le bien du collectif.
C'est un gars qui calcule. À chaque fois qu'il a le ballon, il essaie de voir c'est quoi la meilleure option. Malheureusement, pour lui, trop souvent, la meilleure option, c'est de garder le ballon.
Oui, mais en plus, il a la confiance de savoir quand je marque, quand je frappe, j'ai une... mon taux de réussite est énorme. Son taux de réussite est très élevé. Donc, il se dit, si l'attaquant peut sacrifier pour moi et faire une course pour me donner de l'espace, tant mieux. Ça m'éviterait à faire quatre
drills. Pour répondre à la question de Mathéo, trouver ce numéro-là, 9, maintenant, c'est presque impossible.
Oui, maintenant, c'est très dur. À moins que vraiment, une stack step ressort quelque part et puis que le joueur est transféré de façon urgente.
On veut ça, là.
Tu vois un profil que j'aurais aimé voir avec l'Impact. J'aime pas le gars, mais Dom Dwyer. Là. Pensez-vous que ça aurait marché? Il me semble que c'est peut-être pas mal le même genre de joueur.
Ça, c'est un facile. Là. Il faut trouver le Dom Dwyer inconnu.
non, je sais, mais là, aujourd'hui, là, on y repense. Là. Il a coûté quoi? Un million? Là, un point? Est-ce qu'on le met l'argent pour Dwyer pour solidifier cette équipe-là en ce moment? Est-ce qu'on le fait ou non?
Moi, je le fais, oui. J'espère qu'on considère Dom Dwyer comme le meilleur attaquant de l'Impact a eu après Divayo et Drogba. Ça fait qu'il n'y a pas beaucoup de choix quand même là, en 6 ans, mais c'est quand même meilleur.
Après ça, on est rendu à Justin Brown.
Exact, mon Dieu.
Ben non, il y a eu Cavani,
Paponi, Paponi.
Paponi, ouais.
Quand est-ce qu'on l'a eu, Cavani?
J'ai eu un malaise cardiaque, pardon. Edinson, pardon. Mais...
pourquoi j'ai dit son nom, désolé.
Parce qu'on l'a comparé à Cavani, Mancuso, des années.
Par le coach lui-même, M. Rémy Garde.
Un coach, c'est là aussi pour la psychologie. Il s'est dit, si je le compare tout de suite à Edison, peut-être que ça va le réveiller.
Donc ça conclut un peu les quatre postes qui étaient un peu suspects. Il y avait trois, surtout, là. Bon, latéral gauche, Raïtala ou pas. C'était plus ou moins pas un faux débat. Côté droit, dans 4-3-3, le troisième milieu de terrain et l'attaquant de pointe. Mais en termes de timing, tu sais, il y avait la question de Gladimir, de Gladmat. Est-ce que l'Impact a de la difficulté à recruter des bons joueurs nord-américains pouvant jouer dans l'axe? C'est une question par rapport au troisième milieu de terrain.
Il n'y en a pas 20 non plus. Là, hein?
Ouais, tous les clubs de MLS cherche des titulaires nord-américains. C'est la clé. C'est pas facile.
Si je vous donne le Jamaïcain qui est trop vieux maintenant, là, vous vous rappelez de Houston, Ricardo Clark?
Bah.
Est-ce que ce profil aurait été intéressant s'il avait genre 28 ans maintenant?
Tu parles que tu allais me ressortir Eric Alexander encore.
Bon, Alexander, c'était le mal-aimé malgré lui, là, alors que je trouvais que je trouvais qu'il était intéressant.
Mais il faut quelque chose comme ça, en effet. T'sais, il faut le Nord-Américain. C'est pour ça que Chaumé est là. Il faut l'option locale. Locale, dans ce cas-ci, c'est l'Amérique du Nord qui va donner des bonnes minutes sur le terrain. On ne peut pas avoir 11 internationales. Là. Bon. Donc, c'est compliqué. T'sais. Soit on les développe, soit on va les chercher en échange. Qu'est-ce qu'on va aller chercher dans un échange? On va aller chercher le Dominic Oduro d'un autre club. Là.
C'est vrai, mais après on se demande comment Toronto est capable de chercher tous ses joueurs internationaux, puis chercher des joueurs nord-américains, puis avoir une équipe béton, même s'ils ont une colonne vertébrale incroyable avec Altidor, Jovinko et Bradley. Là. C'est pas négligé du tout.
Penses-tu que Jovinko, c'est un élément dans le recrutement? Tu sais?
C'est sûr que oui.
Parce que moi, je pense que si on mettons Drogba, on le garde, là, c'est un élément positif pour le recrutement.
Oui.
Est-ce que Jovinko apporte cet élément-là?
Le club n'a jamais voulu donner les clés du recrutement à des joueurs. Ils ont toujours voulu se garder ce rôle-là. Maintenant, c'est un peu plus différent avec Garb, parce que lui, il vient avec une base de données un peu plus élargie au niveau du recrutement.
Légèrement.
Hein? Donc, Diallo ne vient pas à Montréal si Garb n'est pas là.
C'est vrai. Des joueurs francophones.
Bon, je pense que ça, Fantôme perdu.
Ouais, Sofiane est mort.
Bon, ben c'est ça. Ben écoute, comme tu l'as dit, Nathan, évidemment, Garde apporte un portefeuille de joueurs qui est beaucoup plus large que ben juste, je pense, responsable de l'ensemble des joueurs qui sont à l'étranger. Mais je pense surtout que aller chercher des gars, justement, pour revenir au début du débat, aller chercher des joueurs nord-américains qui sont vraiment performants, mais écoute, ça prend des dollars. Tu sais, on l'a vu à quel point les gars se sont détaillés quand même assez cher. Là, je pense à des Nagby, même un Kletchtan. Tu sais, c'est des gars qui sont ben Kletchtan n'est pas nord-américain, mm-hmm. Mais tu sais, c'est les joueurs américains qui ont été vendus. Là, on parle de 1,4 million. Là, c'est toujours l'idée. Dans la façon qu'on a recruté jusqu'à maintenant, on n'a jamais sorti les gros dollars. Donc, je me dis, est-ce que ça passe par l'académie? Oui. Est-ce que l'académie est dans une forme pour développer des joueurs qui vont être dominants en MLS actuellement? La réponse est non.
Est-ce que vous m'entendez? Allô?
Ouais.
Okay, oui.
Je suis de retour. Ouais, je suis de retour. Donc, voilà, j'ai écouté tout attentivement. Oui, c'est vrai. Puis les exemples que vous avez donnés par rapport aux différents transferts internes à MLS avec du TAM et du CAM, c'est que oui, il y a une possibilité de faire ça. Il faut que le profil de joueur intéresse le club. Puis là, j'avoue que j'aurais été choqué de voir un Nagby être recruté par l'Impact. Voyant comment l'Impact marche, que ce soit Braz ou DeSantis, j'aurais été vraiment choqué.
Ça aurait pas fait de sens, mais ça aurait été le fun.
Oui, c'est ça. Bon, Nagby, mais je pense qu'il va même jouer milieu axial avec Atlanta, alors qu'il peut même jouer ailier ou deuxième attaquant. Mais en tout cas, on verra ce que ça va donner. Je pense que ça conclut le côté évaluation post-match, après-match Impact Tampa Bay. On a quand même passé 47 minutes sur un match pré-saison contre un club USL. C'est un record dans l'histoire des émissions foot. Il y avait deux points de débat que Fred voulait ramener. Fred, tu peux commencer par un peu ce que nous a dit notre ami Arigui, ex-Impact qui a duré 10 matchs et demi.
Oui, ben écoute, bon, c'est sûr, c'est une traduction qui est somme toute sommaire, mais bon, on comprendra les propos. Arigui, en entrevue, a dit: j'ai dû affronter des joueurs avec lesquels je n'aurais jamais pu pouvoir croiser, comme Pirlo, David Villa et Schweinsteiger. Ces joueurs-là, dans la ligue, tu ne pouvais même pas les toucher, qu'on sifflait tout de suite. Moi, j'ai besoin que le foot reste une passion et je crois qu'en Amérique du Nord, ça n'existe pas. À la lueur de ces propos, je pense que, on le sait, Arigui, c'est déjà les Argentins sont réputés pour être passionnés dans le foot. Je pense que c'est des joueurs qui se donnent entièrement. Et je pense qu'il n'y a pas nécessairement tort. Sa perception n'est pas nécessairement fausse, à mon avis, de cette MLS. qui progresse, oui. Mais j'aimerais savoir, est-ce que vous pensez réellement que justement les gros joueurs, comme dans le passé, on l'a vu avec Drogba à Montréal, ont encore cette aura-là où la Ligue d'un les protège au niveau du style de jeu? Et pensez-vous vraiment que au niveau de la passion et du dévouement sur le terrain, on est encore loin là, des gros championnats du monde et même l'Argentine là, qui est un des championnats où c'est bouillant, là, on sent dans l'atmosphère.
J'ai pas envie de trop d'insulter Arregui, mais est-ce que lui a montré sa passion et sa agressivité sur le terrain avec l'Impact? Une question. Est-ce que lui a montré une passion intelligente et une agressivité de foot avec l'Impact? Avant qu'il critique le reste de la Ligue.
Il a joué 6 matchs là, avec Montréal. Là, il a affronté le Galaxy, Chicago, il a affronté City. Moi, je pense que c'est un gars, puis on peut le comprendre, là, il a pas vécu une superbe expérience nord-américaine.
C'est vrai.
Avec Mauro Biello.
Un vrai flop, là.
Hein? Mais je veux dire, il est arrivé, il a pas eu la confiance du staff. Il a été remplacé dans des matchs. Même nous, on comprenait pas pourquoi lui partait, pourquoi... Hernan restait sur le terrain. Il y avait des considérations autres, probablement. Je peux comprendre. Ça arrive beaucoup, là, des joueurs qui vont dans des pays puis que ça ne fonctionne pas du tout. Ils vont blaster le pays. Mais dans le fond, c'est juste... C'est l'expérience unique. T'sais. C'est pas vrai que les joueurs vedettes de la MLS sont protégés tant que ça. Moi, j'entends surtout
mais c'était l'inverse. C'était le cas avant.
Oui, mais là, j'entends surtout l'inverse, là. Qui sont pas assez protégés.
Ouais, c'est possible.
Je sais pas. Ces entrevues sont le fun. Mais on voit un peu qu'ils sont amers, mais je pense pas qu'il faut donner beaucoup de valeur à son propos.
Mais si on se rappelle, lors de son passage à Montréal, c'est un joueur qui se faisait siffler énormément par l'arbitre. Là, je me rappelle, je pense, son premier match qu'il avait joué au Stade Olympique, il était rentré en fin, je pense qu'il restait peut-être à 70e minute, je pense, pour Donadel. Le changement. Puis je pense qu'il y avait eu 4 fautes appelées contre lui. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas la même tolérance, on pourrait dire, avec les tacles pieds levés en MLS qu'en Argentine.
En Argentine, il accumule les cartons jaunes aussi de son côté. Je veux dire, il n'y a pas...
Ouais.
C'est... Quand ça ne va pas bien, là, on cherche souvent du côté de l'arbitre pour expliquer les situations. Quand tu n'as pas le ballon, c'est sûr que tu fais des fautes parce que ton rôle, c'est d'aller chercher le ballon. Arrigué dans un club comme celui-là, présentement, là, il y aurait moins de fautes.
Non, c'est vrai. Puis c'est... Bon, que ce soit mal traduit ou pas, ou ça a été mal paraphrasé là, de ce qu'a dit Arrigué, si on le prend de façon méta, c'est plus indicatif que... Oui, on le sait depuis longtemps qu'il y a une différence de culture et de passion entre l'Argentine et la MLS. Il y a une différence de culture et de passion de l'Argentine et le reste de la planète, là, honnêtement. Vous savez, l'Argentine, beaucoup de pays en Afrique, en Amérique du Sud, il y a une passion assez folle, puis assez intéressante, qui peut faire peur, qui peut faire plaisir, qui est dans l'ADN, l'ADN de la société respective. Donc oui, il faut pas... Arregui, ne sans vouloir réinventer la roue, oui, on sait ce que tu veux dire, on est d'accord, mais dans toutes les ligues, les stars sont protégées. Ça, je te dis tout de suite, là, le PSG et le Real Madrid sont très protégés par les arbitres et juste en termes de perception. Il n'y a pas la théorie du complot qui voudrait que Pirlo soit intouchable. C'est ça, Pirlo était intouchable au Milan et à la Juve, et avec l'équipe d'Italie, c'est pas ce qu'il est en menace qui va...
C'est pas comme si Pirlo touchait beaucoup de ballons.
Exactement, mais s'il avait cette impression-là, qui est peut-être vrai, il n'y a pas une théorie du complot. Dangaber, c'est pas l'empereur.
Il aurait joué contre Jovinko, il aurait capoté.
Exactement. Puis Dangaber, exactement. Et Dangaber, c'est pas l'empereur de Star Wars, donc voilà, on se calme. Mais c'est un propos intéressant d'Arregui qui a quand même une réflexion intelligente dans ce qu'il dit. Donc ça donne un bon débat. Puis j'apprécie beaucoup ce qu'il a dit parce que ça reflète un peu que la culture foot, soccer, entre guillemets, ben, elle touche aussi la malaise. Hein. C'est pas parce que c'est une ligue fermée que la culture foot s'arrête assez aux frontières.
Oh, et puis quand il y avait le salaire à MLS, il se plaignait pas trop. Là.
Ben oui,
il n'aime pas la culture, mais le chèque américain qui rentre aux 15 jours, il aimait ça. Là.
Dollar US, ouais, super
bon. Quand tu es sûr d'être payé aussi, ça aide. Hein.
Exactement. Et Fred, pour finir l'émission, tu avais un petit débat sur l'analyse médiatique autour du bleu-blanc-noir, donc je te laisse lancer ce sujet, puis si on a hâte de voir.
Ouais, ben écoutez, je pense que ça a été annoncé en, en grande pompe, là, même par je sais plus s'il y a le président ou je sais plus trop ce qu'il fait encore, là, mais Pierre-Carl Pelado, là, que TVA Sport avait fait.
Je sais plus ce qu'il fait encore, Pierre-Carl Pelado. Oh, on peut en faire un t-shirt? Est-ce qu'on peut faire un t-shirt, s'il vous plaît? PKP. Je sais plus ce que je fais.
Non, mais je sais plus que, à quel stade il est dans sa carrière chez Vidéotron, là, mais bon, il avait annoncé là.
Il est technicien.
Non, mais c'est méconnu. On ne sait pas si c'est encore fait d'ici.
C'est clair. C'est bref.
Non, mais bref, annoncé en grande pompe quand même là, l'acquisition d'Assun Kamara et de Patrice Bernier à leur équipe d'analystes du côté de TVA Sport. Évidemment, dans les dernières années, TVA Sport a quand même investi en production originale, là, bon, avec leur émission La Semaine. Quand même, on a des avant-matchs là, depuis... pratiquement, je pense, 2 ans déjà. Ça commence à... La production de contenu là, par rapport au soccer à Montréal commence vraiment à être de plus en plus intéressante. Là, surtout, ouais, on partait vraiment loin. Puis, surtout aussi, il faut leur donner ça, c'est du contenu de qualité. Là. C'est pas juste se dire on va faire les trios comme dans d'autres émissions. Là. Fait que,
il y a de la couverture. Là, TVA Sport, puis les gens qui les critiquent, je les trouve un peu sévères. Ils créent du contenu, exact. De la couverture en dehors du match.
Exact. Puis ça, ça fait vraiment différent de la formule là, qu'on utilise, par exemple, pour l'autre sport. Et puis, je voulais savoir, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que, bon, c'est sûr qu'ajouter deux personnalités comme ça, deux joueurs qui ont quand même un charisme intéressant et qui ont une capacité d'analyse, on l'a vu dans leur léger passage là, depuis leur fin de carrière ou plus ou moins en série. Est-ce que vous pensez qu'on est peut-être amené à une progression, mais vraiment à un autre niveau? Certains ont parlé là, sur les réseaux sociaux peut-être d'un futur antichambre. Peut-être du côté du soccer, peut-être qu'on pourrait peut-être se servir de ces deux personnes-là qui ont une crédibilité importante au niveau du public montréalais pour, je sais pas, lancer des émissions de production originale pour parler, par exemple, des autres équipes. Est-ce qu'on vous pensez qu'on est peut-être rendu là?
Georges?
Ben, clairement, c'est un peu ce que RDS a fait avec la CFL. Avec toute la vague de joueurs québécois qui ont pris leur retraite, ils se sont tous ramassés à RDS, ils les ont formés comme analystes. Et là, aujourd'hui, ça devient des analystes hyper intéressants à suivre. Écouter un match de football sur RDS ou l'écouter sur une télé américaine, ça se vaut avec des Vercheval et compagnie. Mais là, il faut faire attention. Là, la recette d'un match de soccer, c'est 15 minutes d'intervalle. Là. C'est pas long. Là. Je veux dire, déjà aujourd'hui, avec Jonathan, on l'entend pas beaucoup. Là, tu rajoutes Camara, tu rajoutes Bernier, ça leur donne 2 minutes de contenu. Là. C'est pas top. Comme tu dis, il faut élargir les horizons.
Mais c'est ça.
Là, il faut avoir 30 minutes avant, il faut avoir 30 minutes après. Il faut des chocs d'idées. Un Camara, un Bernier, un Jonathan va apporter toute son expérience. Et avec le temps, ils vont devenir des gens hyper intéressants à entendre s'ils osent critiquer le club de l'Impact de Montréal.
Puis, et c'est vrai qu'il y a clairement un positionnement entre TVA Sport et RDS. TVA Sport, en décidant de prendre tous les matchs de l'Impact, ils sont aussi diffuseurs de la MLS, aussi, officiels, si je ne me trompe pas. Donc, ils se positionnent clairement comme le producteur, le diffuseur, et éventuellement de producteur de contenu soccer nord-américain, donc MLS dans ce cas-là et Impact surtout. RDS se positionne depuis tout le temps avec Bell Media, avec tout ce qui est FIFA, Coupe du Monde, Euro, Futsal, donc il y a un schisme, et par défaut, il y a un schisme assez clair en termes de diffusion d'images. Donc ça, c'est une chose. Au niveau du contenu, RDS, bon, ils ont le podcast Loin de son foot, qui est un podcast foot, qui passe aussi en vidéo sur leur site de RDS Vidéo, donc il y a une sorte de recyclage et de la télé en direct, mais quand même mettre le contenu sur la plateforme électronique. Donc ça, c'est une chose. Mais du côté de TVA Sport, en ramenant Assun Kamara et Patrice Bagnier, ça renforce le côté local du contenu. Exactement comme a dit Nilton par rapport à la Auvers Cheval, Mathieu Proulx, Didier Ormé juste pour ce qui est NFL. Ils ont même une émission qui s'appelle Blitz, je pense. Une émission de foot américaine qui s'appelle Blitz. Donc, il y a ce contenu. Si tu investis tôt, si tu investis au début, ben, tu auras des redevances et tu vas générer des... Tu vas créer des... Tu vas créer... Exactement.
C'est stratégique. C'est une vision long terme.
Exactement. Et tu crées des petits enfants dans le futur pour pouvoir générer encore plus de contenu. Et ton questionnement est très bon, Fred, pour dire... Ben, oui, est-ce qu'avec l'arrivée de Patrice Bernier qui va être à l'émission Impact cette semaine et Asun qui va être sur les diffusions du match, est-ce que ça pourrait ouvrir l'opportunité d'avoir plus de contenu de différents formats, différents types au sein de TVA Sport? J'espère que oui. Je ne travaille pas pour eux, donc je ne vais pas leur donner les détails de mes idées, mais ça pourrait... c'est vrai.
Mettons qu'ils ne nous écoutent pas, OK? Je ne veux pas que Camara et Bernier servent à faire une entrevue avec un joueur. On s'en fout. Il y a déjà des gens de métier qui sont capables de faire des entrevues, peu importe le sport.
À moins qu'ils soient bons à le faire.
À TVA, ils ont déjà les personnes en place qui sont excellentes pour faire des entrevues.
Ouais.
Bernier, Camara, Jonathan, ils sont là pour amener d'autres choses. Ils sont là pour pousser l'analyse, pour donner leur point de vue, pour expliquer ce qui se passe sur un terrain. Et ça, on ne peut pas faire ça pendant un match. Il y a juste 15 minutes, c'est trop rapide. Ils ont déjà leur staff pendant un match, à moins qu'ils fassent un match à 3. Il faut pousser le traitement médiatique de ce sport-là à un autre niveau.
Mais est-ce qu'on en demande trop pour cette première saison, cette première expérience de TVA Sport avec Bernier et Camara? Parce qu'on se dit, ils vont faire comme d'habitude, ils vont insérer les deux personnalités dans leurs deux produits différents, qui est l'avant-match, la mi-temps et l'après-match, pour Bernier et l'Impact cette semaine. Puis on verra plus tard l'été ou l'année prochaine ce qu'ils vont faire.
Il faut tout de suite les lancer. Je pense à un Thierry Henry là, qui était dans le staff de beIN Sports, puis qui expliquait le jeu de Barcelone.
Je pense que c'est Sky Sports.
C'est Sky? Oui, tu as raison. Le 10 minutes qui expliquait Barcelone, là, c'était... C'était du bijou, là. C'était une bible. Là. Je veux dire, c'est d'autres choses. Là. Il faut que TVA Sports, puis s'ils nous écoutent, tant mieux, se dirige vers cette direction-là.
Puis tu sais, Henri, c'est l'exemple parfait. Henri a une crédibilité au niveau international. Bon, ça a donné que le poste pour lequel il travaillait est diffusé de façon internationale également. Mais à Montréal, avoir un Patrice Bernier qui t'explique c'est quoi un 4-4-2, honnêtement, c'est sûr que ça va, je sais pas comment bien le formuler, mais ça va rendre le foot plus accessible. Plus de gens vont s'intéresser, il va mobiliser davantage de gens. Donc, je pense que justement, c'est là que TVA Sport saisit l'opportunité en se disant, ben écoute, c'est une bonne chose de les avoir. Puis moi, ce que j'aimerais aussi, c'est, tu sais, t'en as parlé un peu soft, mais si ces deux gars-là sont là, hein, je pense pas que c'est juste pour 2 minutes, là. Tu sais, à un moment donné...
ce qu'ils ont fait avec Jonathan, là. Il était juste là pour les matchs à domicile. Il était là à l'entracte. Puis ça apportait peu de choses.
Oui, mais je pense que ça, à un moment donné, ça va progresser. On va se le dire, là. C'est sûr qu'un Bernier puis un Camara vont commander un salaire X, là. Ils peuvent pas juste dire, bon, mais les gars, on va vous payer... je sais pas, peu importe le montant, pour vous parler 1 minute et demie à chaque 2 semaines. J'y crois pas à ça. Donc, moi, je pense que si ces gars-là arrivent dans la couverture d'un sport, c'est pour plus que juste dire bon, ben oui, il fait une belle passe au latéral droit. On voit que, bon, il y a une chimie entre les deux joueurs. Je pense que ça va aller beaucoup plus loin que ça.
Ben, du moins, c'est ce qu'on espère. Mais en fait, on a une hypothèse qu'on met par défaut inconsciemment, puis je pense pas qu'elle est nécessairement bonne. C'est qu'on assume, je pense, qu'on espère que le contenu foot à la télé. On parle de télé, hein. Moi, j'ai coupé les câbles, donc je sais pas si je pourrais voir tout ça, mais là, l'expérience soccer, contenu soccer à la télé, va ressembler à peut-être 30% de ce qu'on donne au hockey dans les télévisions québécoises. Donc,
mais c'est sûr que c'est la même recette.
C'est la même recette, mais est-ce que tu assumes en termes de volume de contenu, le foot va arriver à 30% du hockey? Et je suis positif. Donc, c'était pas à 30% du hockey. Comment est-ce que on peut espérer qu'il y ait toutes ces idées qu'on vient de dire de façon générale, on voudrait qu'il y ait plus que 5 minutes d'analyse, plus de les impacts sont plus longs, qu'il y ait des émissions vraiment séparées, éventuellement. Donc, c'est un peu dur d'évaluer ça, parce que je ne suis pas sûr.
Mais 10 minutes, déjà là, tu as 30% de matchs, mettons, de soccer versus... Mais je voulais dire le tiers, là, excuse, il y a c'est un tiers pour un 100% du côté du hockey, par exemple. Là, tu faisais référence à ce sport-là. Mais
ouais.
Déjà là, si on fait une autre chambre après le match, déjà là, bon, c'est déjà une progression. Après ça, si tu as déjà une émission en semaine, si tu es capable d'apporter au bulletin de nouvelles ou peu importe, un segment de 5 minutes par jour. Moi, en tant qu'amateur de foot à Montréal, je suis comblé parce que le reste, là, on sait très bien qu'on va récupérer l'information de d'autres façons.
Mais ils en parlent souvent. Il y a tout le temps l'impact qui est souvent dans le bulletin de nouvelles de TVA Sport depuis deux ans. De façon très, très forte. La présence de l'impact dans le cycle de nouvelles montréalais sportives est très, très présent. Ouais, ouais. Il est très énorme. Ouais. Mais honnêtement, Fred et Hilton, si un antichambre version TVA Sport, ou même pour ne pas mélanger les deux entités, là, si un Morissette en direct, c'est ça? Comment il s'appelle l'émission là, de Morissette? Dave Morissette en direct, je ne sais plus quoi, qui est en version foot. Même si c'est deux fois par semaine, en plus d'un MLS cette semaine ou un pack cette semaine, si on arrive à ce niveau-là dès cette année, je me dis, waouh, le foot est arrivé au Québec.
Ouais, mais attention, là, pour ça, je vais y aller avec des pincettes. Là. Pour faire une émission de débat, il ne faut pas juste être d'accord.
C'est vrai.
T'sais, forcément, on n'a pas le choix. Les anciens joueurs, là, c'est pas comme le hockey. On n'a pas des anciens joueurs de partout dans la MLS. On a juste du monde attaché à l'Impact de Montréal. L'histoire Impact de Montréal dans la MLS, c'est assez récent. Donc, est-ce qu'ils sont capables de critiquer comme on critique les Canadiens de Montréal présentement? T'sais?
Ça va dépendre. C'est vrai qu'il y a une certaine proximité avec le temps, parce que Camara et Pernet sont retraités. Sont des jeunes retraités, ils veulent pas.
C'est camarades.
C'est ça. On peut pas savoir la réaction du club si Camara critique le club de façon constructive. Bernier travaille encore à l'académie, donc est-ce qu'il va faire attention ou pas? Seul le temps nous le dira. Mais un point intéressant ouais, par rapport au jeune âge. Si tu écoutes, par exemple, je ne sais pas si vous écoutez John Lemiatis quand il
ça fait longtemps. Oui, je vais utiliser le fait que je suis vieux. Moi, je me rappelle de Mario Tremblay qui était à la télévision et qui était analyste, mais qui chantait quand les Canadiens marquaient, puis il était content. Puis il faisait partie pratiquement du club.
Oui.
Là, les joueurs analystes sont très, très attachés à l'Impact de Montréal. Bernier est encore employé de l'Impact de Montréal. Une antichambre avec Bernier, ça fait bizarre.
Oui, ça fait bizarre, mais... Je faisais la référence à Limiantis et tu l'as faite avec Marlon Tremblay, c'est la comparaison parfaite. Parce que l'histoire, l'impact à Limiantis a mal fini pour lui quand il était coach. Ouais. Ça n'a pas bien fini.
Ça finit mal.
C'est ça, donc lui n'était pas seulement content, mais dans sa personnalité, il y a tout le temps quelqu'un qui était très, très, très ouvert, très critique, la personnalité de John Limiantis. Donc sa façon d'être est assez évidente. Tu sais, Bernier est tout le temps un gars posé, on l'a eu pendant notre vidéo en décembre. Et puis on voit que c'est un joueur très posé, une personne très posée qui fait attention à ce qu'il dit mais qui est capable de critiquer. Maintenant, si dans le contrat entre TVA Sport et Bernier ça dit que bon, tu peux pas trop critiquer l'impact de façon expéditive, ok, il n'y a pas de problème. Mais je ne pense pas qu'il va s'entendre à dire que, je sais pas, que Lovitz est le meilleur défenseur de l'année. Je ne pense pas qu'on va l'obliger à dire ça.
Mais... Non, mais juste terminer ce point-là, mais ça, on n'est pas obligé. Tu parles le mot critiquer, mais si moi je te passe une séquence et je te dis qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette séquence-là, on n'est pas nécessairement dans une attaque personnelle non plus.
Tu as raison, 100%. Donc, on est dans une émission de débat puis que dans 5 mois, Montréal se retrouve en première position de sa conférence. Dans une émission dans l'antichambre, il faut que quelqu'un dise finalement, le staff de Montréal l'année passée, il n'était vraiment pas de niveau, il n'était pas bourri, ils n'avaient pas des bonnes solutions. On a bien fait de les mettre dehors, puis garde et tout son staff, c'est du top.
J'avoue que c'est ça.
Est-ce qu'un Camara est capable de dire ça? Ben non, il ne peut pas dire ça.
Non, mais t'as-tu déjà entendu ça dans les autres sports?
Ben oui! Quand tu entends j'haïs ça faire ça. Là,
ben oui, il faut le faire.
Quand tu entends un Vincent Danfousse, un Benoît Brunet critiquer Bergevin, ses transactions, et c'est une attaque directe. Là. Quand tu vois TVA Sport faire une blague avec Julien et la pancarte derrière, et c'est écrit « Fire Bergevin », il y a une distance. Là, aujourd'hui, est-ce que TVA serait capable de mettre une blague sur... On se projette il y a 6 mois, quelqu'un avec une pancarte qui ridiculise Biello, est-ce qu'ils vont mettre ça sur Facebook comme ils l'ont fait? pas sûr, là. Je suis même presque sûr que c'est non, la réponse.
Et surtout que le rapport de force est différent. Ouais. Et c'est vrai. Mais c'est à eux de gérer ça, c'est à eux de tester un peu ce qui marche pas. Mais c'est vrai que le rapport de force est très différent. Très, très ouais. différent. Et les relations entre le Canadien et RDS et TVA Sport, le Canadien, l'impact avec RDS et TVA Sport est très différent de façon exponentielle.
Mais ceci dit, Bernier à TVA Sport, pour analyser le jeu, que ce soit de l'impact ou de la MLS, c'est une mine d'or.
C'est un grand plus, hein.
C'est la meilleure personne en ville.
Ouais.
Non, c'est vrai. Puis c'est deux acquisitions intéressantes, comme tu as dit, là. Je ne sais pas s'ils ont payé du temps ou du gain pour les chercher, mais c'est vraiment bien qu'une chaîne décide de prendre tout le soccer américain, surtout celui de l'impact, dans une destination, puis maximiser tout ce qui est local, avec notamment Bernier, puis Camara comme des sortes d'ambassadeurs là, du foot, là, puis à leur façon. On va voir ce que ça va donner, si c'est la même poutine qu'avant, et que c'est juste, on ajoute deux acteurs de plus, le produit ne va pas se détériorer, au contraire, il peut seulement s'améliorer avec la Glory Input. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner pour le téléspectateur? Le marché va décider. Les gens vont regarder ou pas regarder. Les gens vont critiquer. Les gens vont tweeter. Ils vont se plaindre.
En même temps, si les gens nous écoutent, j'ose croire qu'ils vont. S'ils font l'effort d'écouter un couscous péri-péri, ils peuvent l'imaginer sur TVA Sport.
Exactement, ouais. Exactement. Donc j'espère pour eux. Puis voilà. Bon, ben, je pense qu'on peut conclure sur ça, messieurs.
Ah, c'était pas mal.
Fred, merci pour tes débats que tu as ramenés. Est-ce que vous voulez faire un quick rapid fire pour un dernier tweet de Grobil08? On y va, mais rapidement. GF Bilodo nous demande, déjà des blessés, la méthode du Van va-t-il les tuer ou les renforcer?
J'aime ça, cette question-là. Hein? Tout le monde est bien, bien excité sur Robert Duverne, et c'est correct. Mais s'il existait une seule façon d'entraîner, tout le monde la ferait, hein?
Exact.
Tout le monde appliquerait la même recette. Chaque méthode a ses plus, mais aussi ses moins. Et une méthode si sévère comme ça d'entraînement, ben ça cause des bobos, hein? Il y a des joueurs fragiles qui ne toffent pas l'entraînement. Et c'est là qu'on est en train de voir. Là. Si Jackson Hamel a de la misère, si Chouanière a de la misère, c'est des mauvais signes comme ça de voir des joueurs qui ne sont pas capables d'endurer une intensité d'entraînement si haute. Là.
Oh, mais attendez, tous les gars que tu as nommés ont des historiques de blessures.
Ouais, mais juste, oui,
Il y a une différence entre un joueur qui a une faiblesse, ce n'est pas nécessairement péjoratif, mais qui a une faiblesse musculaire, faiblesse ci, faiblesse ça, et quelqu'un qui a été poussé à son maximum. On l'a vu, Piatti, il y a une progression physiquement là, cette année.
C'est ça. Ça, c'est plus, on le voit. Là.
Un gars qui est en forme et qui n'est pas fragile, à date, pour ce qu'on a vu, ça a un point positif. Mais allons dire que le surmenage fait en sorte que les joueurs sont plus blessés. Oui, c'est vrai, mais un surmenage de 4 jours et demi?
Non, on s'entend qu'il va y avoir plus de blessures. Quand les joueurs vulnérables, ben, ils vont payer le prix.
C'est vrai, mais surtout que, ouais, c'est vrai, mais tout le monde est différent, mais la tendance se maintient. Si tu as des histoires de blessures...
Ouais, mais entre les deux, entre l'année passée puis cette année, c'est sûr que je prends la formule de cette année. Là.
Oui, mais excellent. Aussi, le plan directeur est différent. Le plan directeur est différent, donc comment tu prépares physiquement ton équipe est différente. Mais un minimum de gens, il faut que tu puisses être endurant et rapide, et d'autres facteurs dont je ne suis pas du tout compétent d'en parler dans un podcast. Prochaine question, Tider sera-t-il le meilleur Africain de la MLS cette année? Clairement pour Sofiane, avec un emoji de rire. Je ne sais pas honnêtement. Je veux juste que Tider soit bon. Meilleur Africain de la MLS, est-ce qu'on considère Ola Camara comme Africain ou Norvégien? Je sais pas.
C'est plate, mais la vie, c'est que c'est le passeport qui décide, puis Ola Camara n'est pas... C'est Norvégien, donc...
Norvégien, OK. Bah, je sais pas. Il y a d'autres Africains en MLS, là. Ils vont être bons,
Mais le débat, c'est-tu... Le vrai débat, c'est est-ce que Tider va être meilleur que Dzemali? C'est pas ça, le débat?
Un débat pour une autre émission, parce que je suis pas tout d'accord avec la comparaison directe Tider-Dzemali, parce que les deux peuvent jouer ensemble. Next question, la dernière. Et, troisième question sur quatre. Plus ou moins 20 points d'écart avec Toronto FC cette année?
On a fini à combien l'année passée? D'écart 20?
Laisse-moi vérifier tout de suite. Toronto FC a fini avec...
Ouais, mais Toronto a le record aussi, non?
69 points et l'Impact a eu 39 points. Donc 30 points. Hey, 30 points d'écart! Je me réaliser qu'il y a 30 points d'écart entre l'Impact et Toronto.
Ouais, ça, ouais. Ça, c'est 10 victoires, les amis. Ça.
Ouais. Hey, on était vraiment pas bons. Hein.
Ça, correspond 10, ça correspond à 10 points Jovinko, 10 points Bradley, 10 points Edouard.
Ouais. Voilà. Mais 20-15, c'est, ouais, ça risque d'être ça. Toronto ne va jamais avoir une aussi bonne saison. Là.
Juste ça comme ça, c'est un excellent place manesse pour mise au jeu. Mais bon, on ne va pas en parler trop longtemps.
Ouais, peut-être un 15 points d'écart entre Toronto et Montréal. Montréal, oui, va s'améliorer. Toronto va avoir d'autres priorités cette saison.
Moi, je dis moins 20. Moins 20, donc peut-être 12 à 15.
Mais c'est pas ça qui est important pour Montréal. Pour Montréal, c'est la sixième position. Un bon mercato.
Les matchs en main, il faut bien les gérer.
Après, on monte à genoux les marches de l'Oratoire Saint-Joseph pour les playoffs.
Et Columbus.
Moi, je sens la fracture à Toronto. Je suis pas sûr qu'il veut. Comme Sof t'a dit, je pense pas que leur saison va être top.
C'est dur de faire ce qu'ils de répéter. C'est dur de répéter leur performance. En termes de jeu, puis aussi en termes de résultats, c'est dur. Mais je trouve qu'ils ne sont pas affaiblis. Maintenant, si la malchance arrive, les blessures et les autres clubs s'améliorent de façon.
Les coachs.
Oui, vas-y. Oui.
Les coachs s'améliorent. À un moment donné, ça prend juste un peu d'intelligence pour contrer un Jovinko. Après ça, Altidore, tu sais où il peut te faire mal, je te dis. Tu planifies mieux ton équipe. Toronto est une équipe plus atteignable. Là, tu vas me dire, oui, ils ont progressé, ils ont été chercher d'autres nouveaux joueurs. Mais la MLS progresse, les entraîneurs progressent, les joueurs sont de mieux en mieux. Donc, à un moment donné, le talent n'est pas garant de victoire assurément comme avant parce que Toronto avait juste la meilleure équipe, tout simplement. Tu comprends? Je pense qu'il faut mettre ça dans l'équation aujourd'hui.
Mm-hmm.
Puis, bon, l'année passée, il y avait juste une équipe de fous, là. Mais Atlanta va les chauffer. Ça va être différent, ça va être différent cette année. Ça,
ils
c'est
ont
sûr.
Perdu 5 matchs.
Et la dernière question de GrosBill08, a.k.a. GF Bilodo. Pourquoi j'achèterais des billets de saison?
Ben là.
T'achèterais des billets de saison? Ben, si t'écoutes notre émission, déjà, t'aimes pas mal ça, l'Impact de Montréal. Voilà. Puis franchement, là, aller au stade de Saputo, ouais. C'est une belle expérience.
Et c'est beaucoup plus économique d'avoir des billets de saison ou un pack de 5 ou 10 matchs que d'acheter des billets individuels. Donc,
À un moment donné, il faut se décider. Là. Est-ce qu'on veut s'investir dans le club et l'aider ou être assis et attendre que le club devienne bon? Si c'est ça, si ton plan, c'est d'attendre, ben, ça se peut que tu attendes longtemps et tu n'auras jamais de bon club. Il faut que tu fasses aussi tes efforts. T'sais. On critique beaucoup Joey pour qu'il sorte l'argent, mais nous, quand c'est le temps de sortir l'argent, on est pire que Joey. On ne le sort pas forcément.
C'est vrai.
Moi, c'est mon point de vue. Moi, exact. J'aime mieux aider le club puis de critiquer après que faire l'inverse.
C'est le spectacle le moins cher en ville. Hein?
Ouais, c'est pas le moins bon.
Comment?
Et c'est pas le moins bon.
C'est vrai.
Non, effectivement.
Si vous mettez si vous mettez le code promo CCPP, vous pouvez avoir des selfies avec moi et Nilton dans le stade Saputo, si vous voulez. Juste pour vous dire, il n'y a pas de code promo CCPP pour acheter des billets de l'Impact. Donc, le faites pas, ça ne va pas marcher. Donc, voilà. Bon, ben, ça conclut l'émission. Merci encore, Fred. Merci encore, Nilton.
Merci à vous.
Merci encore, tout le monde. Juste une dernière annonce pour vous dire que vous pouvez supporter maintenant le Cannes Football Club pour soutenir le projet financièrement pour qu'on puisse continuer à créer du contenu. C'est pas compliqué, vous allez sur la page Facebook, on a mis un lien pour vous pouvez acheter un t-shirt spécial Le Partisan. On peut mettre un code spécial Pick Up au stade pour pouvoir le recevoir au stade. Donc en achetant le t-shirt, ça va nous aider à financer nos différents projets au Cannes Football Club. Donc n'hésitez pas, donc allez-y sur notre page Facebook, facebook.com/ Cannes Football Club. Allez-y sur le lien Facebook qu'on a mis en haut de la page pour pouvoir supporter le Cannes Football Club financièrement. Donc, c'est grâce à vous qu'on continue avec vos écoutes, mais c'est aussi, vous pouvez nous aider financièrement. Ça va nous aider aussi. Donc, merci beaucoup tout le monde, Nilton et Fred. Puis à la prochaine, les gars.
Merci, Sof.
Ciao tout le monde.